Salut à tous sur Game Radio, c'est Kaya Pachinko, votre émission jeux vidéo vue du Japon. Aujourd'hui, pas tellement jeux vidéo, puisqu'il s'agit d'une émission spéciale. Vous avez été assez nombreux sur le forum à vous intéresser à la façon dont Noël se passait au Japon. Donc, je me suis dit que pendant les petites vacances qu'on prend donc pour Noël, j'allais vous enregistrer un petit spécial pour vous expliquer un peu comment cette fête se passe ici et comment je vais la passer, puisque je ne la passe pas de façon tout à fait ordinaire. J'ai décidé en effet de profiter des petits congés qu'on nous accorde à l'université pour visiter, évidemment, et pour aller passer Noël à un endroit approprié, en l'occurrence Hokkaido. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien la géographie du Japon, il s'agit de l'île la plus au nord, qui est très connue pour sa nature absolument magnifique et ses parcs naturels très bien préservés. Donc c'est là que je me dirige pour une petite semaine, et au passage je vais pouvoir vous expliquer un peu ce que c'est Noël pour les Japonais, et vous parler des paysages enchanteurs d'Hokkaido couverts de neige. Je ne sais pas si j'aurai beaucoup de choses à enregistrer, on va voir, c'est une émission un peu intro. Là d'ailleurs, comme vous l'avez peut-être entendu, je ne suis pas un endroit tout à fait conventionnel pour enregistrer. Je suis en effet sur un bateau, d'où le vent très fort, car l'ami avec qui je fais le voyage et moi avons décidé de prendre le ferry pour nous rendre à Hokkaido, c'était le moyen le moins cher. Et ça fait donc une quinzaine d'heures comme ça sur ce bateau, d'accord, en guise de lit, une espèce de couverture à peine posée par terre. On a réussi à dormir, c'est un miracle. Et donc nous devrions arriver d'ici 2-3 heures, nous allons voir les côtes, on commencera les premières lumières. Voilà, et on commence à sentir aussi nettement la différence de température avec Kyoto, hein, puisque Kyoto qui est donc beaucoup plus au sud. Là, on se gèle vraiment, il est à peine 7h du soir, mais on doit être en dessous du zéro, et je compte bien trouver la neige à mon arrivée, parce qu'à Kyoto, pour l'instant, on n'en a pas encore. Je crois qu'en France, on a eu pas mal cette année, ici, on n'en a pas encore vu, mais ça ne devrait plus tarder à changer. Donc, pour passer le temps jusqu'à l'arrivée, j'ai juste vous parler donc, un peu de Noël, à la façon japonaise. Alors, comme vous l'avez un peu expliqué dans le Game Radio Inco numéro 10, Noël, au Japon, n'a pas du tout la même signification que chez nous, puisqu'il s'agit ici d'une fête d'amoureux. Et oui, c'est une fête que l'on passe principalement en couple. C'est aussi une excellente occasion pour se déclarer, si ce n'est pas encore fait. Mais ce n'est pas du tout une fête de famille. Les Japonais sont très surpris quand je leur ai expliqué que Noël se passait traditionnellement en famille. Ici, c'est vraiment entre amoureux ou à défaut entre amis. Par contre, c'est le nouvel an qui ici se fait vraiment en famille, alors que chez nous, justement, c'est plutôt l'occasion d'avoir un dîner entre amis en général. Donc vraiment, deux visions différentes. Et il faut savoir évidemment qu'au Japon, Noël n'a pas du tout la signification chrétienne qu'il a chez nous. C'est-à-dire que les Japonais, en général, ne savent pas que Noël est la naissance du Christ. Et ils n'ont absolument aucune idée de la signification religieuse de cette fête. La plupart de ceux que j'ai interrogés n'ont pas vraiment su me dire d'où elle venait. Mais voilà, pour eux, c'est juste une occasion de passer donc une nuit romantique. D'ailleurs, on offre assez peu de cadeaux, même pas du tout. La tradition des cadeaux, elle n'est pas très ancrée. Même s'ils connaissent le personnage de Santa Claus, donc j'ai peur Noël. Ça leur dit quelque chose. Mais on n'en a pas beaucoup. On voit les décorations de Noël, les illuminations. Alors évidemment, comme c'est un pays qui s'occidentalise de plus en plus, on a de plus en plus d'enfants qui accordent des cadeaux pour Noël. Mais au départ, ça n'a pas du tout cette signification-là. Je me souviens d'ailleurs que pendant le Game Radio Inco, on m'avait demandé, mais alors qu'est-ce qu'ils font pour la Saint-Valentin? Et bien, la Saint-Valentin, c'est très différent. La Saint-Valentin au Japon, même si c'est le même jour que nous, le 14 février, ça ne sera pas pareil. La Saint-Valentin au Japon, c'est l'occasion pour les filles de se déclarer à celui qu'elles aiment. Et pour cela, elles fabriquent du chocolat, fait maison, et elles l'offrent aux garçons pour se déclarer. Parce que dans la pratique, elles peuvent aussi offrir du chocolat à des professeurs ou à des amis. Voilà. Mais en tout cas, en théorie, Saint-Valentin, c'est pour les filles, uniquement pour se déclarer. Et un mois plus tard, c'est le White Day. Et là, c'est les garçons qui ont reçu du chocolat qui rendent un cadeau en retour. Alors, on m'a dit que le cadeau était censé faire trois fois la valeur du chocolat offert. Alors, je sais pas si c'est une règle implicite que tout le monde applique. Enfin, donc, c'était un rapide bilan sur la signification de la fête, donc totalement différente ici. Et une fois arrivé à Sapporo, donc la capitale de Hokkaido, je vais pouvoir vous expliquer en détail comment les villes s'illuminent, comment elles organisent leur marché de Noël, dans un pays donc qui fête Noël sans tradition chrétienne. On se retrouve donc pour les aventures à Sapporo. Et nous voilà maintenant à Sapporo, et pas n'importe quel endroit, puisque nous explorons le marché de Noël, qui est celle dans tout le Japon, et qui a une particularité, c'est que c'est un marché de Noël allemand. Et oui, parce que bien sûr, la tradition de marché de Noël n'existe pas vraiment au Japon. Et donc c'est une occasion d'importer les traditions occidentales, notamment ici allemandes. C'est à fait ce que je vous disais, c'est-à-dire que Noël est une fête importée totalement. Il n'y a pas de tradition, ou de décoration, ou de nourriture de Noël japonaise. C'est tout importé. Et en l'occurrence, ici, c'est vraiment plein de stands typiquement allemands, avec parfois des vrais commerçants allemands qui sont venus jusqu'ici. C'est extrêmement sympathique. On se croirait effectivement en Europe, c'est tout à fait comme ce qu'on a en Allemagne. Avec voilà, de la bière et du Glühwein, donc ce vin chaud que les Allemands aiment beaucoup boire à Noël. On est donc le 24 au soir et c'est excellent pour mettre dans l'ambiance. Donc ici, on a toute une rangée de stands de nourriture avec des poulets, donc du Glühwein, des saucisses allemandes. Derrière, on a toute la sorte de décorations, mais des décorations typiques de München, donc une ville allemande. Donc on a des bâtiments allemands en verre, des lanternes. Et ici, on a toute la sorte de magnifiques poupées. Et j'ai oublié de vous dire que donc ce marché se tient sur Odori Park, qui accueille aussi les White Illuminations, qui sont parmi les illuminations de Noël les plus célèbres du Japon. Les Japonais adorent les illuminations de Noël. On en a vraiment beaucoup, j'en ai déjà vu plusieurs. Donc les plus célèbres sont à Kobe ou à Tokyo, bien sûr. Et donc à Sapporo, où il y a les White Illuminations, qui sont absolument magnifiques. Elles sont donc juste au-dessus du Christmas Market. Et donc tout ça se tient sur le Odori Park, qui est une sorte d'immense avenue, un peu comme ce qu'on a fait à la Tour Eiffel à Paris, pour ceux qui ont déjà vu. Ce que vous avez entendu, là, c'était un Père Noël japonais, avec le costume et tout, qui se passait dans la foule en se temps Merry Christmas. Ici, on a tout un stand de céramique avec des bâtiments de München encore. On a les mêmes choses très kitsch qu'on a à tous les marchés de Noël français, c'est-à-dire les espèces de verres taillés au laser très moches, là. Et les stands tenus par des Japonais côtoient les stands tenus par des Allemands venus pour l'occasion. Et plein de décorations de Noël, avec des couronnes de l'avant, des décorations en bois. Les Allemands aiment beaucoup les décorations en bois, les petits moulins en bois, surtout. Et ici on a un magasin français, sans aucune raison, qui s'appelle le Jardin Potager. On a vraiment beaucoup de Japonais fascinés parce qu'évidemment le marché de Noël c'est pas vraiment quelque chose de typique de leur culture, donc vraiment ils découvrent tout. Beaucoup de touristes venus d'autres parcs que Sapporo pour découvrir justement ce marché de Noël qui est vraiment très populaire. Oh, et justement on avait des mariés qui se baladent dans le marché en prenant des photos, donc habillés en mariés occidentaux. C'est de plus en plus populaire au Japon de se marier à l'occidental, donc avec la grande robe blanche et le costard pour les hommes. Alors évidemment il y a d'autres costumes traditionnels pour le mariage japonais. C'est de plus en plus populaire et donc comme Noël c'est une fête de couple ici et particulièrement occidentale, ils en profitaient et donc ils se baladaient en costume de mariée au milieu du marché en prenant des photos. Derrière ils devaient se geler, surtout la mariée qui avait les bras nus. Je rappelle qu'ici il neige. Hein. C'est amusant, ici on a un pain qui s'appelle Sapporo Sweets, donc normalement confiserie de Sapporo, mais c'est que du pain d'épices. Mais tu veux dire que le pain d'épices c'est pas exactement japonais ni typique de Sapporo. Alors, j'observe un peu la foule et effectivement c'est vraiment principalement des jeunes couples. C'est, ils se baladent la main dans la main, ce qui est quelque chose d'ailleurs que seuls les jeunes couples font. Les couples âgés ne tiennent jamais par la main en public, c'est indécent. C'est un excellent endroit donc pour les rendez-vous amoureux, c'est le marché de Noël. La musique est très mauvaise, je sais pas ce que vous en pensez mais... Ok, et maintenant nous quittons donc le marché de Noël pour nous diriger vers le reste du parc qui est entièrement illuminé, c'est vraiment magnifique. Évidemment, ça, il faut plutôt que vous regardez les photos, parce que si je vous le décris, je pense que vous y perdrez un petit peu. La décoration japonaise, c'est toujours extraordinaire. C'est de toutes les couleurs, hein, du bleu, on a plusieurs teintes de bleu, du rose, du vert. Et alors, ça recouvre les arbres, on a aussi des sculptures. Par exemple, là-bas, on a une espèce de muguet, un muguet entièrement illuminé. Oh, on se gèle. J'aimerais les lèvres gercées, je ne vais même plus pouvoir parler dans le micro à force. Il a fallu avoir une file pour la moitié fois de la journée, c'est le sol est une vraie patinoire. Si vous entendez un gros balamoum plaf, c'est normal, c'est moi qui me suis planqué par terre. On a des animations, hein, des jongleurs. On a quelques artistes de rue qui se produisent. Un jongleur avec des balles fluorescentes, pas très doué d'ailleurs. Voilà, et là, on a un grand sapin de Noël avec marqué dessus Love Central. Et je crois que les couples peuvent y accrocher des vœux pour le futur de leur couple, etc. Encore une fois, donc, une fête d'amoureux. Hashire Sorio, Kate no Yo.
月の中を軽く早く笑い声を雪に撒けば明るい光の花になるよ。
Bien, nouveau rapport 25 au soir. Après une journée très mouvementée, ce qui fait que j'ai pas pu faire d'enregistrement de terrain aujourd'hui, donc je vais devoir tout vous raconter. Journée très mouvementée, par où commencer? Déjà, on a changé d'endroit, puisqu'on est tout simplement à l'autre bout de Kaido, l'autre bout donc de l'île. On est maintenant du côté de Haken Park, du côté du lac Mashu, c'est-à-dire tout à l'est de l'île, alors que Sapporo est tout à l'ouest. On a donc eu 6 heures de train ce matin, et depuis, nous apprenons ce que c'est que la campagne, mais la vraie campagne japonaise en hiver. C'est-à-dire, c'est un autre monde, il n'y a pas de civilisation. Donc, une journée assez complexe, puisqu'il n'y a tout simplement pas de train. Vous avez environ 3 par jour. De toute façon, quand on est dans un hôtel, dans une petite ville, mais toute paumée, on dirait une ville fantôme, c'est bien simple, il n'y a rien, tout est fermé. C'est la saison morte, donc tout est fermé. On a été coincé pendant tout l'après-midi, en gros, dans cette ville morte, parce qu'il n'y avait pas de train. Et ensuite, quand on a enfin eu un train vers 17h, alors qu'on était arrivé à midi, je ne sais pas si vous voyez, on a fait nos anbattés, on a voulu quand même aller voir le volcan Yozan, qui était à 2 arrêts plus loin. Mais donc on y est arrivé à 17h30 environ. Et il faut savoir qu'ici 17h30 apparemment c'est l'équivalent de minuit à tout ailleurs dans le monde, puisqu'il fait nuit noire. Il n'y a pas un seul éclairage public, hein, pourquoi faire. Tout est fermé, il n'y a plus rien. Mais la gare ne travaille plus. Donc ça, pour avoir les infos pour retourner, c'est vraiment sympa. On a même peur qu'il n'y ait plus de train dans l'autre sens. Et donc on n'y voit rien, c'est fini noir, on a repoussé chemin directement. Voilà, donc c'était un beau fail. À part ça, donc pour les bons côtés de la journée, notre journée particulièrement aventureuse de notre périple. Et nous sommes arrêtés à un hôtel particulier, puisqu'il s'agit d'un ryokan, donc un hôtel traditionnel japonais. Et ça, c'est juste le rêve. Pour vous décrire un petit peu, un ryokan, donc vous êtes dans une chambre japonaise, une chambre à tatami, avec des portes coulissantes, c'était vraiment extrêmement convivial, très confortable. Vous avez une petite table avec un kotatsu, c'est-à-dire une couverture chauffante, du thé et des biscuits préparés pour vous à votre arrivée, et vous avez tout ce dont vous pouvez avoir besoin, comme si vous étiez chez vous, en fait, c'est-à-dire un frigo, une petite cuisine, une télé, et donc des futons, donc c'est ces matelas japonais que l'on déroule le soir, donc des futons déroulés et très très moelleux donc pour dormir. Il faut savoir que donc les ryokans sont beaucoup moins chers que les hôtels normaux, et c'est souvent beaucoup plus familial parce qu'il y a beaucoup moins de clients, donc le personnel est extrêmement attentif à tous vos besoins. Bon, pour vous donner une idée, donc pour le coup du train là, quand le Japon déçoit, c'est bien simple, les Japonais ne déçoivent pas, parce qu'on est rentré à l'hôtel, on a demandé s'il y avait quelque part on pouvait utiliser un ordinateur dans la ville pour essayer de changer un peu nos plans, puisqu'il n'y avait absolument pas de train, donc il fallait qu'on s'arrange autrement. Pour l'information, on va marcher partout en fait, on va faire de la randonnée en pleine neige, donc s'il n'y a plus de rapport après celui-là, c'est normal, c'est que je suis morte enterrée sous la neige quelque part dans le blizzard. Bref, donc on est retourné, on a demandé s'il y avait un cybercafé quelque part, le type nous a dit non évidemment, parce que c'est une ville complètement morte, mais il nous a amené son propre ordinateur portable, il nous a laissé consulter pendant une bonne heure, et totalement gratuitement évidemment, c'est ça vraiment le sens du service japonais, c'est ça. Et pour finir, cet hôtel, c'était une bonne partie de notre choix, est construit sur un onsen. Et un onsen, c'est une source chaude naturelle. À Hokkaido, il y en a énormément. Et donc, vous avez un bain public à la japonaise, qui est en fait un onsen, donc qui est une source chaude naturelle. L'eau est à température naturelle. Il faut savoir que donc dehors, il fait environ moins 10 degrés, mais le bain donc, dans lequel j'ai à peine pu rentrer, est environ à 40, voire 50 degrés. C'est-à-dire, je suis devenue rouge comme une crevisse instantanément. Et donc en fait ce qui se passe c'est que l'hôtel vous prête une robe de chambre japonaise et donc après vous allez dans ces bains qui sont donc séparés puisque bien sûr donc, vous y allez nu, hein, c'est des bains publics mais donc c'est séparé par sexe. Et donc le principe du bain japonais c'est que vous rentrez dans la pièce donc, qui est complètement pleine de vapeur et vous allez dans un coin de la pièce avec une espèce de petit tabouret sur lequel vous asseyez et vous vous lavez en fait dans un coin de la pièce face à un miroir avec des douches qui sont intégrées dans le mur. Vous lavez et vous purifiez soigneusement avant d'entrer dans le bain. Il ne faut pas qu'il y ait une seule saleté dans l'eau du bain. Donc vous lavez soigneusement avant, ça prend environ 20 minutes, et ensuite seulement vous rentrez dans le bain et vous y restez très peu de temps parce que c'est très chaud et donc c'est dangereux d'y rester longtemps. Mais c'est délassant à un point extraordinaire. Alors évidemment, c'est pour ceux qui lisent des mangas, vous savez que les onsen ont la réputation de n'accueillir que des vieilles mémés, et bien je peux confirmer, puisqu'il n'y avait vraiment que des vieilles dames, il y en a qui me regardaient avec un air un peu désapprobateur parce que j'ai dû faire quelques gaffes aussi parce que le bain c'est un rituel très codifié auquel je ne suis pas encore très bien habituée donc j'ai dû faire quelques gaffes. Mais il y a aussi des vieilles dames extraordinaires à qui j'ai un peu échangé. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Donc demain le 26, normalement on va avoir des grues japonaises, donc des grues à couronne rouge très célèbres. Vous en parlerez plus demain. Donc d'ici là, je vais dormir et à demain donc pour un nouveau rapport. Journée du 26, et comme vous l'avez peut-être entendu depuis un endroit encore une fois très particulier, puisque cette fois-ci nous sommes dans les marais de Koshiro Shitsugen, qui sont l'unique réserve naturelle pour les grues couronnées du Japon, les grues à tête rouge, qui sont une espèce extrêmement rare, très protégée. C'est le seul endroit au monde où elles vivent encore. C'est une espèce qui a failli s'éteindre due à une chasse trop sévère, c'est une espèce très fragile, et qui, grâce aux efforts de conservation des habitants, a pu repasser une centaine d'individus à, je crois, près d'un millier aujourd'hui. Donc là, nous sommes à l'observatoire de Koshiro Shitsugen. Et donc face à nous, il y a des centaines de grues, parce que c'est donc un des endroits où elles viennent se nourrir pour l'hiver, et c'est aussi un observatoire. Et elles sont à environ 50 mètres de nous, pas plus. Elles sont absolument magnifiques. Donc, ce sont donc des oiseaux qui font environ 1,20 m à vue de nez. Et donc blanc et noir, avec une tête rouge extrêmement gracieux, bien sûr. À mon ami évidemment mitraille de photos, donc vous pourrez les voir. On en voit même danser là, face à nous. Ce sont des oiseaux célèbres pour leur danse très gracieuse, où elles renversent leur cou en arrière et elles étendent leurs ailes. Et elles se tournent autour, et elles sautent. Vous avez entendu, je ne sais pas pourquoi, donc c'était la grande panique. Donc on a eu plusieurs dizaines d'oiseaux qui se sont mis tout d'un coup à redresser le cou vers le ciel et à s'être à marcher en criant comme ça. Alors ces oiseaux donc sont évidemment la fierté de la région, hein, dans la ville de Koshiro où on était tout à l'heure. Enfin, c'est bien simple, elles sont partout. Il y a des grandes photos au carrefour et puis elles sont aussi sur les fenêtres des maisons et même sur les bouches d'égout. On va essayer de se rapprocher un peu, on prend un petit sentier de l'observatoire. Maintenant on est à une vingtaine de mètres même pas. Elles sont vraiment pas du tout farouches. Il faut savoir que là on est en saison creuse, donc on est vraiment tout seul à part quelques photographes professionnels qui sont là avec leur caméra immense. Mais donc si on vient ici au mois de février, c'est bien d'être monde. Et donc elles doivent être très habituées. Comme c'est une espèce protégée, elles se soucient pas des humains, elles savent qu'elles sont nourries ici, pas attaquées. Étrange. En plus d'être une fierté nationale, les grues du Japon sont aussi symboliques notamment de la fidélité en amour, puisque ce sont des oiseaux qui apparemment, une fois qu'ils ont choisi un partenaire, le gardent pour toute leur vie. Il y en a qui se sont envolés, qui sont passés juste au-dessus de nos têtes, c'était magnifique. Elles se répandent dans le bois de l'observatoire, on dirait. Alors bien sûr, les grues ne sont pas la seule espèce qui vient de se nourrir ici, puisque on a plein d'oiseaux de différentes espèces. Enfin, on a des pigeons tout à fait classiques, le genre qu'on trouve en France. On a aussi des moineaux, je ne sais pas si vous entendez derrière, des corbeaux. Et surtout, on a deux magnifiques rapaces, alors, je pense que ça ressemble à des faucons, qui tournent autour, sont en attendant un petit oiseau quelconque. Donc, ils tournent au-dessus, ils font leur ronde. Et alors, c'est intéressant, il faut que je vous parle quand même du manège des moineaux, c'est très amusant. Ils sont juste derrière nous, quand j'entendais piailler, c'est ça, c'est des moineaux. Et c'est assez extraordinaire, ils sont donc une bonne centaine, et ils se coordonnent. Oh, une grue qui passe au-dessus de nous, qui atterrisse gracieusement. Puis donc, on a ces moineaux qui sont tout à fait coordonnés, toute la nuée. Ils décollent tous d'un coup de la barrière derrière nous, ils vont se poser quelque part un peu à l'écart des grues pour picorer, ça prend 3 secondes et hop, ils redécollent tous en même temps en nous fonçant dessus. C'est assez impressionnant d'ailleurs, là où on est, ils nous passent autour. C'est vraiment une attaque commando sur le repas des grues et ils redécollent avant que les grues puissent les chasser. Ils sont très bien organisés. Et il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est là où il leur donne des poissons aussi que nourriture. Donc on a eu un soigneur qui a enlevé des poissons encore vivants. Et donc on a vu les grues déchiqueter les poissons, mais surtout ça a fait arriver tous les aigles du coin. Il y a une dizaine d'aigles magnifiques, vraiment très grands, peut-être un mètre d'envergure, qui sont au-dessus là, qui tournent autour, et qui attendent que les grues lâchent les poissons, et puis ils fondent dessus, comme des fiers, pour les emporter. C'est magnifique. Et enfin, on a vu deux aigles se battre même pour un poisson en plein vol. C'est se l'arracher des serres. Et on est vraiment à 20 mètres. Hein. Ce que vous entendez là, c'est les grues qui menacent les aigles pour pas qu'elles viennent leur piller le poisson. C'est vraiment des grands aigles avec un énorme bec jaune, très jaune. Et un renard. Un renard qui a participé au festin. Tous les animaux du coin qui débarquent. C'est tout plein de corbeaux qui tournent autour des animaux qui mangent les poissons. Attendant d'avoir les restes, sans doute. Et on a un aigle qui s'est carrément posé. J'ai jamais vu un aigle posé par terre. Ah, c'est immense quand c'est posé. Et il s'est envolé. Ils se battent. Ah, les deux aigles qui sont posés, pareil, pour régler leur compte, j'ai l'impression. Et on a toute une bande d'aigles qui se bat là-bas. C'est très spectaculaire. On essaie de s'arracher un poisson en plein vol. C'est mon ami qui prend les photos, alors je l'ai menacé de mort, ce n'avait pas de bonnes photos, vous inquiétez pas. Un des faucons aussi, visiblement. Un peu plus ici. Et là-bas, on a quelque chose que je ne pense pas voir un jour en vrai dans ma vie. Un aigle tout à fait majestueux posé sur une branche, et qui regarde le festin, avec son air régal. Chaque fois que vous entendez ça, c'est les aigles qui se battent. C'est cri, aigu. Les corbeaux qui se battent maintenant. Avoir des aigles se battre avec des grues pour du poisson, c'est pas tous les jours. Hein. Les aigles qui passent en rasant dessus et les grues qui s'écartent en criant. Là, on a un aigle qui a attaqué une grue, elle s'est écartée, hop, il a piqué son poisson au sol. Dans ses serments, il s'envole avec. Il va laisser tomber sur la tête d'un photographe. Hein. Non, il l'a emporté. C'est un peu calmé. Et ben dis donc, on a vu plus que ce qu'on attendait. Hein. Bien, nous voilà maintenant dans le centre d'information annexe à l'observatoire, avec plein d'informations donc sur les grues. Et là, par exemple, je suis face à un graphique qui indique l'augmentation de la population. Et en fait, c'est encore pire que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que en 1952, il n'y a plus que 33 grues recensées, 33 individus. Et donc c'est à ce moment-là qu'il y a des efforts qui ont été faits. Et donc aujourd'hui, si je regarde le graphique, apparemment leur nombre a augmenté à 1200. Voilà, donc c'est un bel effort de conservation de l'espèce. Ici on a des plumes juste devant nous. Et alors c'est vraiment impressionnant, hein. Ils ont une taille, pour les plus grandes plumes qu'on a face à nous, j'estimerais à 50 cm bien, la taille des plumes. Très impressionnant. Donc leur vrai nom scientifique, hein, c'est grue japonaise, vraiment. Parce qu'elle n'existe vraiment que ici. Le squelette, on dirait un gros poulet, juste avec un cou et des jambes un peu démesurées. Ah, ici on a des poussins empaillés, ça on n'a pas vu des vrais, c'est pas la saison, je pense. Pareil, on dirait des poussins de poulet, mais un peu plus gros. J'ai oublié de vous dire, je crois, comment les grues étaient appelées par les Japonais. On les appelle Tancho, ici. Tancho. Et nous voici à notre dernier jour d'exploration, la journée du 27. Et quelle journée! Aujourd'hui, on part vraiment complètement à l'aventure, puisque c'est une journée où on va faire de la randonnée et que de la randonnée. Heureusement, pour l'instant, le temps nous sourit, il fait vraiment très très beau. Dans les paysages enneigés, sous un bon soleil, il fait presque chaud. Et alors, là, nous sommes à un endroit, une sorte de paradis sur Terre. En ce moment précis, nous sommes sur le bord du lac de Kushalo, qui est un des trois grands lacs de Hokkaido, dans le parc de Hakan. C'est le plus grand d'ailleurs, c'est un lac de plusieurs kilomètres, et donc là, entièrement seul, c'est complètement vide, heureusement qu'on est vraiment à la saison creuse, il n'y a aucun touriste, on a tout pour nous tout seul, c'est magnifique. D'où le silence incroyable, la paix que je trouble avec mon enregistrement. Et donc là, nous contemplons des kilomètres d'eau, plein de vapeur, car l'eau est plus chaude que l'air. Et le lac est entièrement couvert de vapeur et de brouillard. et ça recouvre la forêt et les montagnes à l'horizon. C'est absolument magnifique. Et au milieu du lac, nous avons des canards japonais et des cygnes qui nagent. Et le ciel, le brouillard et l'eau se mêlent de telle façon qu'on dirait qu'ils nagent, qu'ils flottent dans le ciel. C'est absolument sublime. Alors, le plan, en idéal, c'est de faire le tour du lac et de retourner vers Kawai Onsen, qui est une ville de sources chaudes du coin, et en chemin de voir le Yozan, qui est une montagne donc d'éruption sulfurique, qui est à environ une dizaine de kilomètres de la ville, donc en tout ça nous ferait une vingtaine de kilomètres de randonnée. On va regarder si on y arrive. En tout cas, on va y aller, mais si on traîne, on va pas y arriver. On a des cygnes qui viennent nous dire bonjour, pas farouche du tout, ils sont tout prêts. J'ai du mal à inciter mon compagnon à avancer. Il y a de quoi être fasciné, je le comprends. Et de cet angle, on a la forêt qui émerge du brouillard aussi. Alors évidemment, on mitraille de photos, hein, vous pourrez voir tout ça. Donc pour ceux qui seraient curieux et qui regardaient sur Google Maps, nous sommes en ce moment précis sur la péninsule de Wakoto, donc tout au sud du lac. C'est un excellent point de départ pour une randonnée, donc aller vers l'est et faire donc le tour du lac sur un sentier qui le longe tout du long pour retourner vers Kawai Onsen en passant donc par les Yozan. On va donc remonter la rue 52, le long du lac. Et ça y est, cette fois-ci, on est parti sur le sentier de randonnée, tout enneigé comme vous l'entendez. C'est tout couvert de neige, c'est pas déneigé en cette saison, il n'y a presque personne. Vous allez pouvoir profiter donc de ce délicieux bruit de 10 cm de neige qui craque sous nos pieds. Alors pour vous donner une idée, ce sentier en fait passe à environ 2 mètres du bord du lac, au milieu de forêt, donc on a une superbe forêt. Et on passe aussi au-dessus de rivières. C'est un sentier en fait qui est surélevé sur des piliers en bois. Là, vous l'entendez, la neige s'écroule sous nos pas. On est tôt le matin, donc il y a encore une fine couche de glace sur la neige qui tient. Et quand elle craque, on s'enfonce d'un coup de 15 cm. Là, on va regagner une route déneigée. Donc la grande route 52 est utilisée pour remonter. Oh.
Kilomètre à pied, ça use, ça use. Un kilomètre à pied, ça use les souliers. 2 kilomètres à pied, ça use, ça use. 2 kilomètres à pied, ça use les souliers. 3 kilomètres à pied, ça use, ça use. 3 kilomètres à pied, ça use les souliers. 4 kilomètres à pied.
I can't remember how to count.
4 kilomètres à pied, ça use, ça use. 4 kilomètres à pied, ça use les souliers.
Do you know the ants go marching in?
No.
That's fun. Because the ants go marching one by one, hurrah, hurrah. The ants go marching one by one, hurrah, hurrah.
I already heard
it. The ants go marching one by one, then you make up something. Da 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 da, and they all go marching down to the ground. Get up. Of the rain, boom, 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 the ants go marching two by two, keep going.
That's amazing.
We also have annoying songs.
Yeah, yes, I like annoying songs.
You do?
Yeah.
It's a song that never ends, it just goes on and on, my friend. Some people started singing it, not knowing what it was, and they'll continue singing it forever, just because this is a song that never ends, it just goes on and on, my friend. Some people started singing it, not knowing what it was, and they'll continue singing it forever just because this is a song that people hate you when you do it.
I know. And in French we have an even more annoying one. Moi je connais une chanson qui énerve les gens. Moi je connais une chanson qui énerve les gens. Moi je connais une chanson qui énerve les gens. Moi je connais une chanson. Yeah, basically.
Je connais. Chanson.
Une chanson.
Une chanson.
Qui
I don't know.
Énerve les gens.
Énerve les gens. I know a song that gets on everybody's nerves.
I know
the song. Everybody's nerves. Everybody's nerves. I know a song that gets on everybody's nerves. And this is how it goes.
I know it.
Oh, okay.
Yeah, but it's good. On a une neige idéale là. Juste assez pour s'enfoncer un peu dedans et pas pour nous ralentir. Alone for a while, I've been looking through the dark of traces of the love you left inside my lonely heart. To me is by picking up the pieces that remain. No, Mark, you're drowning out my words.
I'm singing.
To live by picking up the pieces that remain. Melodies of life, lost refrain. Our paths they cross, so I cannot say just why. We left on fast, and then we said goodbye. This is probably the worst rendition of this song ever. Oh, ah, on arrive à un superbe point de vue sur le lac. Et on va longer le lac sur cette route, ça va être magnifique. Là, tout près d'un pont. Donc, tout près du lac, on pourrait se baigner si on avait envie, mais je pense que c'est pas conseillé en la saison. Deux heures de marche plus tard, on ne devrait plus être très loin. On est donc sur cette grande route qui longe le lac est toujours aussi magnifique. Et donc qui monte un petit peu, donc on a de plus en plus une belle vue. On croise parfois quelques voitures. Et plus on est au milieu de nulle part, plus on a des gens dans les voitures qui nous regardent avec admiration, qui nous font des signes, des sourires, qui nous applaudissent. Et c'est vrai que là, ça commence à faire une belle trotte. Et dans une voiture, on a vu une dame qui était visiblement Ainu, ou au moins qui avait des racines Ainu. Et à cette occasion, je vais expliquer un petit peu ce que c'est que les Ainu. Les Ainu sont en fait un peuple aborigène qui vivait au Japon, plus particulièrement au nord du Japon et surtout à Hokkaido, avant l'arrivée donc des peuples chinois qui ont immigré, qui sont venus japonais d'aujourd'hui. Et il faut savoir que donc ces peuples chinois étaient nettement plus avancés que les Ainu, ils les ont exterminés, comme c'est souvent le cas quand les immigrés arrivent sur les nouvelles terres et les colonisent. Et donc les Ainu aujourd'hui se sont complètement mélangés à la population japonaise. Mais il y a encore un problème de racisme très présent à l'encontre des Ainu et des personnes qui ont des ancêtres Ainu. Alors comment on a vu que cette dame était Ainu, c'est qu'elle avait la peau beaucoup plus bronzée, beaucoup plus cuivrée que la plupart des Japonais. Ils ont les Ainu ont l'air plus... ils ressemblent plus à des Indiens américains que des Asiatiques, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Ils reconnaissent les personnes qui ont leurs ancêtres. Mais en général, ils le cachent, parce qu'il y a des problèmes de racisme assez latents. Bref, voilà. Prochain rapport à l'arrivée, je pense. Et un bon moment plus tard, je pense que ça fait bien une heure et demie de plus qu'on marche. En fait, il est exactement 12h13 et on est parti. On a commencé à marcher à 8h30, donc faites le compte. Ça nous fait bien 3h30 de marche. Et donc comme vous l'entendez, nous sommes quasiment arrivés à Yozan et à Kawayu Onsen. Et nous sommes en fait à un des espèces de stop, de station-service, restaurant qui sont un peu à l'extérieur de la ville. Et qui donne donc une magnifique vue sur le lac. Et comme vous l'entendez, c'est la partie du lac où se réunissent les cygnes. Donc là où on est entouré d'une centaine de cygnes partout autour de nous qui recouvrent une bonne partie du lac, c'est très beau. Et au loin, très loin, on voit la péninsule où nous sommes partis. Je peux vous dire que quand on voit ça, cette péninsule à l'autre bout du lac, et qu'on se dit on a commencé à marcher là et maintenant on est ici, on se sent puissant. Bien, et donc nous allons continuer à marcher vers Kawayu Onsen, prochain rapport à Yozan, donc les montagnes sulfuriques. Et cette fois-ci, ça y est, enfin, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Il doit être, j'ai aucune idée de l'heure qu'il est, mais on a marché bien une heure et demie de plus au final, parce que c'était plus loin que prévu, mais nous sommes au mont Yozan, donc un mont aux éruptions de soufre. Est-ce que vous entendez là derrière moi? Ce sont les éruptions de soufre, je suis vraiment tout prêt, on peut s'approcher, il n'y a aucune barrière, on peut s'approcher à 5 mètres, donc c'est là où je suis. Et donc à 5 mètres de moi, il y a deux cheminées qui crachent du soufre très violemment, ce que vous entendez. Et des fumées jaunâtres, verdâtres. Donc je suis en plein dedans, ça fait... et c'est Elles sont chaudes et ça sent très mauvais, évidemment, ça sent le soufre. Et c'est assez étouffant même d'ailleurs. Je vais bouger. Je vais bouger. Il y a donc une bonne dizaine de cheminées comme ça qui crachent du soufre avec une violence impressionnante. Donc c'est ce bruit que vous entendez, là, ce bruit de, un peu de cascade. C'est ça. On va en voir d'autres. Il y a une extrêmement violente là-bas. Donc, et ça colore. Alors c'est dans une roche assez spéciale. Une roche vert jaune qui s'effrite très facilement. Alors, je ne saurais pas vous expliquer le phénomène géologique derrière tout ça, mais c'est très impressionnant. Voilà, on s'approche de la plus grosse. Là par contre, il y a une barrière. Et voilà, et bien, ça valait bien la randonnée, hein, le lac. Et c'est fumé maintenant. Et maintenant, on a encore une demi-heure de marche pour retourner à la station. J'en peux plus. J'ai plus de jambes. Je me demande quelle heure il est. Ouh. Et nous voilà maintenant dans la petite cabane à côté des cratères. Et dans cette cabane, ils vendent des œufs. Des œufs qui sont cuits directement dans les cratères. Donc nous allons pouvoir les goûter. Nous en avons acheté 5, presque rien. On va pouvoir en emmener. Voilà. Et donc les œufs. Donc des œufs durs cuits dans les cratères de soufre. Ça, ils ont mon odeur d'ailleurs. Allez, on va pouvoir le casser sur la tête, comme à la sauvage. Il va exploser à la figure. Ouch.
Oh, you care.
Yeah. Voilà. J'ai cassé. God. Paf. That's how you do it. Pouf, j'ai choqué Marc qui n'avait jamais vu ouvrir un œuf à la tête.
That sounded painful.
No, it was funny. Bien, et alors nous allons pouvoir voir si ces œufs ont un goût particulier.
Are you okay?
Yes! Give me this.
I'm not breaking it on my head.
Ok, itadakimasu, je goûte l'œuf.
It tastes like eggs.
Eh bien, étrangement, ça a un goût d'œuf dur, mais très 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 cuit. C'est la seule différence. Ça a un goût d'œuf dur. Voilà. C'était l'expérience donc des œufs cuits dans les cratères du Yosan. Et cette fois-ci, ça y est, c'est fini. Dernier apport depuis le ferry, comme vous l'entendez. Le ferry donc qui me ramène vers Kyoto. Après donc cette petite semaine d'aventure à Hokkaido, je sais qu'il y a été moins question dans la vidéo que d'habitude. Ça a plutôt été nature et air frais pour une fois. J'espère que ça vous a plu quand même, que vous avez apprécié ce petit voyage dans ma compagnie. La semaine prochaine, ne vous inquiétez pas, on revient bien sûr sur notre passion, les jeux vidéo. D'ici là, bon jeu à tous et à bientôt.